Alors avant que Hugo commence, on va le présenter. Il est agrégé et docteur en philosophie, donc on termine sur de la philo. Attachez vos ceintures. Il est chargé de cours à l'université de Tours. Il a rédigé sa thèse sous la direction de Sandra Laugier. Son institution de recherche est le Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne. Et sa recherche porte sur la philosophie du cinéma et des séries télévisées. Donc nous sommes en plein dedans. C'est aussi un habitué du festival Désir Désir. Il est intervenu, si je me souviens bien, l'année dernière ou l'année d'avant. Et aussi d'intervention régulière au studio. Bref, c'est une célébrité à Tours. Et il est intervenu, j'ai découvert l'affiche tout à fait par hasard, le 16 janvier dernier à la Bibliothèque Centrale sur la Casa des Papels. C'est bon ? Dans le cadre de la saison 6 de Serial Philo. Donc il y a aussi des saisons en philosophie, vous voyez. Donc on va écouter Hugo qui va nous parler de Buffy the Vampire Slayer.
Merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment navré de ne pas avoir pu être là auparavant parce que le programme était passionnant. Et en plus, je suis sûr qu'il va y avoir des choses qui vont se croiser, donc je vais sûrement dire des âneries. D'autant que je ne suis pas savant. Il me manque donc des connaissances, notamment par rapport à ce que je viens d'entendre, qui est tout à fait documenté et éclairant. Donc je vais apporter ma contribution. Je ne sais pas si ça sera très philosophique, mais en tout cas, mon intérêt, c'est l'expérience du spectateur et la façon dont le cinéma ou les séries télévisées peuvent nous transformer. Dans un sens, dans le sens d'une amélioration, hein, un des thèmes de Stanley Cavell ou de Sandra Laugier, c'est le perfectionnisme moral. Mais je m'intéresse aussi à l'autre aspect. Ça peut aussi nous transformer d'une façon peut-être inquiétante moralement. Je vais en parler maintenant justement. Donc le titre est pas très beau, mais il essayait au moins d'être en relation avec le thème, hein, normalisation et artialisation télésérielle. Le cas Willow dans The Vampire Slayer de Joss Whedon. Par normalisation, j'entends un processus au cours duquel une manière de faire, une pratique minoritaire, accède non pas au statut de norme, hein, ne devient pas majoritaire, mais tout simplement devient plus ordinaire, plus accepté, plus répandu qu'auparavant. On pourrait ainsi distinguer deux sens de la normalisation. On passe d'une minorité à la majorité, ou tout simplement on est accepté comme une pratique parmi d'autres, éventuellement à égalité avec d'autres. Ce phénomène, on peut l'illustrer avec une anecdote célèbre dans le champ de l'ethnologie ou l'anthropologie. C'est ce qui a conduit le grand ethnologue Marcel Mauss à découvrir l'existence de ce qu'il appelle les techniques du corps. C'est-à-dire l'idée que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un certain nombre de nos usages de nos corps ne sont pas naturels, innés et donc universels, mais sont acquis, culturels et particuliers. L'exemple hein, qui lui a même donné cette idée, qui a attiré son attention sur ce fait, c'est un séjour dans un hôpital new-yorkais qui a duré quelques temps, où il a eu le temps d'observer donc, la démarche de ses infirmières et où il s'est demandé où est-ce qu'il avait déjà vu cette démarche. Et il finit par trouver que c'était dans le cinéma américain. Il rentre à Paris et il découvre que les Parisiennes, qui ne marchaient pas du tout comme ça avant qu'ils partent, on est dans les années 20-30, donc les voyages sont longs, etc. Les Parisiennes, enfin, un certain nombre d'entre elles se sont mises à marcher comme les Américaines, et il se dit d'où ça vient. Elles n'ont pas pu toutes faire le voyage, etc. Donc c'est par le cinéma. Donc on a un exemple ici de normalisation, hein, d'une manière de faire, une manière de marcher, qui est cinématographique. Alors, dans un autre contexte, j'ai travaillé sur ce point, et j'ai proposé de reprendre un concept qui est en usage en philosophie de l'art et en esthétique, qui est le concept d'artialisation. Et par artialisation, on entendra donc un processus ou un phénomène social ou culturel qui a parmi ses facteurs une œuvre d'art, un courant artistique ou quelque chose qui vient de l'art. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est l'art qui crée la vie, un peu comme Oscar Wilde pouvait le dire dans Le déclin du mensonge. Hein, c'est Il s'agit simplement de dire que on ne peut pas ne pas tenir compte de cette œuvre artistique ou de cette œuvre d'art quand on veut parler du phénomène. Donc, on a un grand-père hein, qui est à table avec sa petite-fille, et il se trouve que ce grand-père, bah, c'est l'un des dirigeants de cette société dystopique, donc forcément tyrannique, etc. Et il regarde les infos à la télé, et à la télé, il voit qu'il y a une jeune femme qui est en train de devenir une icône de la rébellion qui est en train de se mettre en place. Et ben, semble-t-il, il n'apprécie pas beaucoup de s'apercevoir que sa petite-fille est coiffée comme cette icône. Et évidemment, la réponse qu'elle lui donne ne doit pas vraiment le rassurer. Bon, c'est un petit clin d'œil sur l'influence du cinéma, avec des réseaux un peu complexes, hein, puisque, en fait, à la réflexion, cette coiffure, c'est à peu près celle de Lara Croft dans Tomb Raider, donc ça vient de loin, et on pourrait peut-être trouver encore d'autres sources. Ça fait très longtemps que le cinéma est conscient de ce rôle mimétique, de son rôle mimétique. Et par exemple, dans l'excellent Sherlock Jr., la scène finale, quand Buster Keaton a réussi à reconquérir le cœur de sa fiancée, nous montre ça. Buster Keaton n'est pas très à l'aise, il est un peu gauche, il ne sait pas trop quoi faire. Et donc, comme il est dans sa cabine de projection, il va pouvoir regarder ce qui se passe à ce moment-là sur le film pour s'en inspirer. Bon, je ne sais pas, ça dure très longtemps, hein, puisque ces films étaient un peu lents. Il y a quand même une chute qui est très drôle, parce que quand il va finir par l'embrasser vraiment et qu'il va regarder de nouveau pour savoir ce qu'on fait ensuite, il va y avoir une ellipse, hein, un cut, et on voit l'homme, hein, dans le film, qui est entouré de trois enfants, et tout d'un coup il se demande s'il a bien fait de faire ce qu'il vient de faire. Donc, un petit clin d'œil. Alors ça, c'est l'aspect un peu amusant et plutôt je sais pas, c'est attendrissant finalement, cet effet du cinéma sur les individus. Il y a un effet un peu plus inquiétant, c'est celui qui a été étudié par des chercheurs américains, notamment quand ils se sont penchés sur tous les massacres, hein, qui existent depuis très longtemps aux États-Unis, y compris les massacres scolaires, et qui n'ont pas pu ne pas voir des relations entre la façon dont les crimes ont été commis, ou les massacres ont été commis, et puis des œuvres audiovisuelles très, très connues. Ils ont soutenu hein, l'idée que dans certaines œuvres, on peut trouver un script culturel, c'est-à-dire un modèle, un triple titre, modèle comportemental, un modèle cognitif, hein, on pense comme le personnage, et puis un modèle émotionnel, on s'entraîne à éprouver, voire à ne pas éprouver d'émotions comme le tueur, comme l'individu. On pense spontanément au cinéma, aujourd'hui aux jeux vidéo, mais en fait, ça fonctionne aussi en littérature. Il y a l'effet Werther, hein, Goethe sort les souffrances du jeune Werther, on a une épidémie de suicide. L'attrape-cœur de Salinger, une référence pour trois assassins célèbres, dont notamment l'assassin de John Lennon. Et puis, ça avait été pensé dès le début du roman, en fait, puisque le Don Quichotte, finalement, bah, c'est ça. Lui aussi, il subit une forme d'artialisation littéraire, et il fait quand même pas mal de bêtises. Il y a eu des analyses qui ont été faites auprès de 200 cas, et on a essayé de chercher ce qu'il y avait de commun entre tous ces individus, hein, qui ont procédé à des massacres. Et on a trouvé que dans les usages des films, on trouvait souvent une constance thématique, on reprenait le même thème, une spécificité scénique, on cherchait à faire la même chose que dans le film ou que dans la série. On répétait le visionnage, on faisait ses propres montages personnels. Et puis enfin, pour se préparer, on regardait en boucle le film violent pour se mettre dans un état d'esprit correct. Donc je passe très vite parce que ce n'est pas l'objet principal, mais le premier massacre, hein, semble-t-il, a été inspiré par Basketball Diaries, un film avec DiCaprio. Évidemment, la tuerie de Columbine avec tous ces films-là qui sont des sources, et le jeu vidéo Doom, Old Boy, le massacre de Virginia Tech, c'est une photo que l'individu a prise avant. Et puis pour nous, en France, c'est par exemple le film Faster pour Mohamed Merah, le tueur au scooter, même s'il a pu aussi s'inspirer de jeux vidéo qu'on trouve en ligne. Je finirai juste avec un dernier exemple. Artialisation littéraire, cinématographique, vidéoludique, il y en a aussi une qui est télésérielle. Vous savez peut-être, hein, que en 1997, une série américaine avait pour pilote, dans son pilote, un avion qui allait s'écraser sur le World Trade Center. Et évidemment, ça a étonné quand ça s'est réellement produit. Bon, ça, c'était pour l'aspect dark un peu de la réalisation. On va revenir à des choses un peu plus encourageantes avec la série Buffy contre les vampires. En rappelant quelques petites choses sur Whedon, j'espère que ça ne va pas être trop répétitif, un petit-fils est fils de scénariste, donc il est bien préparé pour être un bon scénariste. Son père était féministe, il a aussi hérité de cela, et il a décidé de choisir comme personnage principal de sa série une blonde, avec tous les préjugés qui entourent cette expression, qui d'habitude est la victime désignée des films d'horreur. C'est celle qui court et qui va finir par être tuée, comme par exemple dans Scream 2. Bon, elle s'en sort pas, elle va finir jetée par-dessus le balcon. Et c'était Sarah Michelle Gellar, donc celle qui joue Buffy. Donc l'idée, c'est, non, on va faire une série dans laquelle c'est pas la blonde qui fuit et qui se fait massacrer, c'est la blonde qui kicks-ass, qui botte le cul des vampires. Avec un sous-texte, une analogie transparente, et oui, en effet, Whedon utilisait ce terme avec ses actrices. Donc un sous-texte transparent, c'est on a une épidémie de viols, d'agressions sexuelles sur les campus. Il s'agit par la série de redonner confiance en elles aux filles, une stratégie d'empowerment, pour que ça cesse. Et ça passera notamment par un des grands thèmes de l'œuvre de Whedon, c'est l'union fait la force. Même si on est une équipe de bras cassés, d'outsiders ou de jeunes pauvres, on peut s'en sortir. C'est ce qu'on retrouve dans Firefly, une série qui fait après, qui dure que 2 ans, mais qui est quand même culte chez les fans de Whedon. L'équipage rappelle en réalité l'équipage d'Alien 4, celui qui a été réalisé par Jeunet, mais qui était scénarisé par Whedon, avec même le nain handicapé en fauteuil roulant. Une chose qu'on va retrouver ensuite dans Game of Thrones récemment. Ce sont tout le monde peut devenir un héros. Et puis, déjà, une relation, quelque chose d'un peu... franchement, c'est latent, mais il y a quelque chose d'homosexuel dans la relation entre Sigourney Weaver et Winona Ryder. Bon, donc je passe à une deuxième partie de mon exposé. J'aborde ce qui nous intéresse ici. C'est la relation avec... le LGBTQ, c'est ce qui m'intéresse, parce que je ne suis pas vraiment un expert par rapport à la série, c'est de prendre quelques réactions que j'ai pu glaner sur Internet de personnes qui ont expliqué à quel point elles avaient été touchées, transformées par la série. Et donc, par exemple, cette analyse qui est proposée de l'importance d'une scène de coming out. Alors, cette scène est originale puisque, en fait, c'est une scène où c'est Buffy qui fait son coming out, mais pas en tant qu'homosexuel ou ayant une autre sexualité que sexualité hétérosexuelle. Elle se présente comme tueuse de vampires, elle dit à sa mère ce qu'elle fait toutes les nuits. Mais évidemment, les réactions de la mère s'interprètent très facilement comme s'il s'agissait d'un coming out, disons, plus classique, ordinaire. Il est évident que quand elle dit « tu crois que je choisis d'être comme je suis » ou quand elle dit « tu te rends pas compte à quel point ça peut être dangereux et à quel point on peut se sentir seul », bon, quelque chose qui passe ici qui va au-delà des seuls individus qui se trouvent être des slayers. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réaction de la fan, qui m'a intéressé là, sur cette page, consiste à dire d'une part que elle est née un an après le début de la série, donc ça lui parle alors que la série n'est pas vraiment de sa génération. Et d'autre part, que finalement, ce qu'elle a appris, c'est pas ça, parce que bon, c'est quelque chose qu'elle a suffisamment identifié, quelles conséquences ça peut avoir quand on a une orientation qui n'est pas l'orientation majoritaire. Mais non, ça lui a permis de mieux comprendre quelle pourrait être la réaction de ses parents si elle faisait son coming out. Ça veut dire que c'est une personne qui écrit, qui dit qu'il n'a pas encore eu le courage de le faire, qui n'a pas jugé utile ou nécessaire de le faire pour l'instant. Et certainement une des puissances de la fiction, et la fiction cinématographique, et peut-être en particulier la fiction télésérielle, que de nous permettre d'envisager des points de vue qui ne sont pas les nôtres. Et elle analyse les choses de la façon suivante, que je trouve très intéressante. Elle pense que la réaction de la mère de Buffy tient à un désir de protection vis-à-vis de sa fille. C'est trop dangereux d'être une slayer. Et cette réaction maladroite qu'elle a, qui émane d'un désir de protection, qui la pousse à lui demander d'arrêter de faire ça. Et c'est ça qui va conduire à la rupture, et au départ. Et donc, la personne qui écrit ça, voilà, a découvert quelque chose. Elle n'aurait jamais pensé que des parents puissent avoir une réaction négative qui parte en fait d'une forme d'amour. D'une forme d'amour, même si ça a cette conséquence désastreuse. Et donc on peut considérer que si elle fait son coming out un jour, elle tiendra compte de ça. Elle cherchera à anticiper, à désamorcer ce type de réaction chez sa mère, parce qu'elle pense que ça va être la réaction de sa mère. Donc non pas d'être scandalisé, etc., mais de réagir pas de peur, pas par un instinct protecteur. Bien sûr, c'est pas du tout ce à quoi on pense quand on pense à l'homosexualité dans Buffy, pas cette scène. On pense plutôt à la relation entre Willow et Tara, une relation qui est une des premières d'aussi longue durée dans une série télévisée. Aussi une des premières relations à avoir été acceptée par les autres personnages, et où on voit la totalité des étapes de l'histoire d'amour qui sont présentées grâce au temps long, hein, grâce à la durée de la série. Au départ, Willow, elle est amoureuse d'Oz, c'est un très beau couple, ça se passe très bien. Oz a juste un petit problème, c'est un loup-garou. Alors ça le trouble un peu, et pour y voir un peu plus clair, il a besoin de prendre de la distance émotionnelle et géographique. Ça crée un très beau, enfin pour nous, hein, un très beau chagrin d'amour. On est touché, donc on s'attache à Willow. Et quand elle décide de participer à des réunions de sorcières, bon, on la suit, quoi. On se dit, bah oui, elle est un peu perdue, voilà. Et on comprend aussi qu'elle ne soit pas très satisfaite de ce qu'elle voit, parce qu'en fait, c'est juste une occasion de manger des sucreries, je crois, dans mon souvenir, ou de papoter. C'est pas vraiment sérieux autour de la magie, alors que Willow, bah, évidemment, c'est beaucoup plus sérieux. Il y a une autre jeune fille qui s'intéresse à la magie sérieusement, c'est Tara. Et assez vite, elles vont se retrouver dans une situation où, en se tenant la main, elles vont réussir à maintenir un meuble en hauteur contre la porte. Elles vont être protégées d'un monstre, et je ne me souviens plus, mais j'imagine que le monstre va ensuite être tué par Buffy. Quelque chose se crée, doucement, vraiment tranquillement, quelque chose passe au niveau émotionnel. Willow se rend dans la chambre de Tara pour faire de la magie, il y a des bougies, etc. Et puis au bout d'un moment, elle lui dit quand même que finalement, c'est pas vraiment pour la magie qu'elle vient. Et Tara lui fait comprendre qu'elle avait compris. Et que c'est pas ce qui la satisfait non plus, c'est pas ce qu'elle attend quand elle vient. Et là, Whedon voulait faire un baiser. Hein, il fallait quand même qu'on passe à l'étape suivante, dans la façon dont se font les choses normalement. Et c'était refusé par la chaîne. Il disait non. Alors, ce qui était très bizarre, parce qu'en fait, c'est quand même une série assez osée sexuellement, Buffy. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait voir ça. Quand j'ai vu ça, je ne disais pas qu'on pouvait voir ça à la télévision dans une série. Surtout vers la fin, évidemment. Bon, à la fin, Whedon n'avait plus grand-chose à faire. Il craignait moins. Mais saison 4, là, on a déjà vu pas mal de choses sexuelles. Bien plus osées qu'un baiser. Ah oui, mais c'était hétérosexuel. Et du point de vue de la chaîne, c'est quand même pas pareil. Donc, Whedon dit « Ok, j'ai pas le droit de faire un baiser, bon tant pis, on va juste faire de la magie. » Je sais pas si il n'aurait pas mieux valu du point de vue des producteurs que ce soit un baiser, en fait. Parce que... Donc là, il y avait pas mal de sous-textes, et semble-t-il, c'est une blague que se faisaient donc, les actrices qui jouaient Willow et Tara, quand il y avait des choses sexuelles vraiment suggérées. Elles disaient « Là, il y a beaucoup, beaucoup de sous-textes. Hein. Le sous-texte, c'est bien lourd. » Donc c'était un truc, un gag, un running gag, un gag récurrent. Oz revient, ça y est, il est au clair. Il veut revenir avec Willow, et Willow lui dit bah, « il y a un problème, ah bon, il y a quelqu'un d'autre, et non, c'est pas quelqu'un. » Et donc, à ce moment-là, quelque chose va se produire. J'aurais voulu vous parler et analyser longuement la scène magnifique de la mort de Buffy. Moi, c'est une scène qui m'a énormément ému. J'ai trouvé qu'elle était... j'ai pleuré, etc. C'était incroyable. Parce qu'en plus, ça monte tout doucement. Là, on ne le sent pas venir, mais tout est fait pour que ça fonctionne. Et puis, philosophiquement, c'est vraiment très puissant avec le personnage d'Anya, notamment. Hein, donc, un monstre qui ne comprend rien. Et qui va dire toutes les choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'elle n'a aucune conscience des usages, de ce qui se dit, de ce qui ne se fait pas. Et qu'elle ne comprend pas pourquoi tous les gens sont très bizarres à ce moment-là. Enfin, c'est magnifique. Et c'est dans cet épisode qu'il y a le premier baiser. Alors, dans ce que j'ai pu lire sur le web, on dit que du coup, c'est un peu de la triche. Parce que dans ce contexte-là, à la limite, tous les gestes un peu bizarres passent. parce qu'on a besoin d'affection et qu'on aurait préféré un vrai baiser amoureux dans un autre contexte moins chargé émotionnellement. Mais peut-être qu'il y aurait des choses à penser par rapport à ça, à réfléchir. Qu'est-ce que ça fait quand on est face au deuil, hein, à la conscience de la brièveté de l'existence? Est-ce que ça ne nous conduit pas à nous accepter finalement comme nous sommes et dire la vie ne dure pas longtemps, autant la vivre comme on est? Enfin, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à creuser. Je ne ferai pas. On vous mentionne, on trouve beaucoup de citations comme ça qui nous montrent à quel point des personnes ont pu être marquées. Je passe là-dessus. Je passe au problème qu'a soulevé cette relation. Il y a une scène d'amour. On les voit nus, enfin, c'est saison 6, épisode 7. Et le problème, c'est que au terme de cette scène d'amour, Tara est tuée. Alors pourquoi c'est un problème? Parce que ça a un nom du point de vue des cultures, des études spécialisées. C'est donc soit au choix Bury Your Gaze or des lesbiennes syndrome, donc le syndrome de la lesbienne morte. C'est-à-dire quand on doit sacrifier un personnage dans une fiction, on a tendance à sacrifier l'homosexuel plutôt que le personnage hétérosexuel. Et puis il y a différentes variantes. C'est quand le personnage homosexuel commence à vraiment s'assumer, eh bien, on va le faire disparaître. Bon, ça peut s'expliquer. Enfin, souvent, c'est expliqué pour des raisons d'arc narratif, hein, d'économie quant au principe de la narration. Mais c'est quelque chose qui relève quand même de la discrimination et qui soulève une légitime indignation. Et donc, on a dit, finalement, l'histoire d'amour entre Willow et Tara tombe, elle aussi, dans ce travers. Et Whedon, il n'a pas fait beaucoup mieux que ce qu'on fait d'ordinaire. Quel dommage d'avoir fini comme ça. Et Willow donc, va avoir une relation sexuelle très, très, très haute, hein, si on peut le dire. Il y a un épisode où ça n'arrête pas. On est vraiment tout près de la fin. Et du coup, on a aussi reproché à cette présentation par Whedon d'un amour homosexuel entre deux femmes de pratiquer alors ce qu'on appelle l'occultation de la bisexualité. Puisque manifestement, l'amour que Willow portait à Oz était un amour authentique et elle prenait beaucoup de plaisir avec lui. Donc ce n'était pas, dans son cas, une personne homosexuelle qui aurait été mal orientée. C'était une personne bisexuelle. Et pourtant, à la fin, il n'est plus du tout question de cette bisexualité. Elle a changé d'identité, comme si on accepte les homosexuels, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Il va falloir s'arrêter dans l'acceptation des sexualités alternatives. Et ça a été un reproche qui a été fait vis-à-vis de ça. Alors, puisque j'ai même commencé à dépasser mes 25 minutes, je conclurai en essayant de justifier un peu Whedon, même si ses reproches sont eux-mêmes légitimes. L'actrice Amber Benson qui jouait Tara a expliqué que, je ne suis pas angliciste donc vous allez me corriger et vous m'excuserez si je traduis mal, la chose qui m'a le plus plu, je ne sais pas comment dire, ce qui a été le plus gratifiant, voilà, merci, la chose la plus gratifiante à jouer Tara ou que j'ai trouvé à jouer Tara, c'est la relation entre Buffy, elle et Willow a permis de donner un coup de pied dans la porte, je sais pas, d'ouvrir ou de maintenir ouverte la porte pour, ou la voix, hein, si on traduit moins littéralement, pour d'autres personnages LGBTQ formidables. Nous étions vraiment chanceux de marcher dans leur pas et de jouer ces femmes. C'est une des choses dont je suis le plus fier. Alors moi, je trouvais ça intéressant de conclure là-dessus, parce que vous voyez qu'il y a quelque chose avec cette idée de la marche qu'on trouvait à l'origine chez chez Marcel Mauss comme manière de faire qu'on va essayer de rendre plus majoritaire, en tout cas plus ordinaire. Et puis l'idée que, bah oui, c'est peut-être pas parfait, Buffy contre les vampires, mais c'était quand même une étape très importante pour préparer ce qu'il y a maintenant, c'est-à-dire peut-être Hannibal et d'autres séries. Et donc, je crois que quand on doit juger une œuvre, il faut se garder hein, de la juger avec nos yeux de contemporains, mais il faut tenir compte de l'effet que l'œuvre a pu avoir en son temps et concevoir hein, comment une œuvre rétrograde à certains égards, voire réactionnaire, peut en même temps était à l'époque tout à fait progressiste. Voilà. Et puis je vous remercie de votre attention.